Patricia Hosgagnon, on revient un petit peu dans l'orbite de la thématique du dernier numéro, avec, donc on évoque toujours des numéros de, du passé, donc de la revue, le polar et le hip-hop.
Oui, qui sont des tous les deux
on
des
est,
numéros
on est déjà dans
extrêmement...
la culture populaire.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait, mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement, on est dans une revue généraliste et une revue politique. L'approche qu'on a de questions culturelles est nécessairement politique, je dirais, d'une certaine manière, c'est de fait. Donc la question qu'on se pose à chaque fois, c'est qu'est-ce qui, en quoi, je dirais, l'art ou la culture, de manière plus générale, interroge le monde dans lequel on vit et interroge le politique. Et donc partant de là, on a choisi des thématiques, évidemment, qui se rapportaient, enfin, qui étaient au plus près de cette interrogation, comme le polar, comme le hip-hop, et aujourd'hui, les cultures populaires.
Que vous traitez en termes de critique littéraire, éventuellement, je parle du polar, mais aussi en termes de nature sociale, en fait, de sociologie, du polar, on va dire pas la consommation, mais la lecture des polars.
Tout à fait. Enfin, pour moi, c'est pas séparé. Hein. Je veux dire, la sociologie de l'art fait partie intégrante de la critique. On y reviendra avec le travail de Richard Schusterman et les cultures populaires. Mais justement, précisément, enfin, je veux dire, soumettre l'art à une exigence critique, à l'exigence de la critique esthétique, c'est l'interroger dans ses contenus et l'interroger dans ses enjeux en même temps.
Sociaux également.
Voilà. Et donc, d'une certaine manière, les enjeux de l'esthétique ne sont pas séparés des enjeux de la politique, même si on n'est pas dans les mêmes champs et qu'on est dans des logiques de déplacement.
Et le hip-hop?
Le hip-hop dans tout ça, le
c'est
hip-hop...
C'est vous qui avez coordonné
oui, tout à fait.
Ce dossier.
Je n'étais pas tout seul. On était,
de même que
on
vous
était
avez...
un groupe de trois personnes. Voilà. Là, j'ai coordonné le dossier sur les cultures populaires avec d'autres personnes, mais je dirais, à modulation variable. Hein, donc, je me suis retrouvée
On va les citer.
Voilà, il y a Nicolas qui est là parmi nous aujourd'hui et qui nous a rejoint sur le tard. On a mis deux ans, il y a deux ans de gestation pour ce dossier. Il faut savoir que les dossiers culturels sont des dossiers qui demandent énormément de travail de recherche. C'est quand même un travail important.
Oui, donc, vous vous préparez bien en amont.
Bien en amont.
Oui, oui. C'est vrai que c'est un dossier dans lequel il y a un travail d'enquête, d'entretien avec beaucoup d'acteurs, soit d'artistes, etc. Donc ça prend aussi du temps, puisque...
Bien sûr. Alors il y a notamment un entretien avec Sylvain Bourmeau, notre confrère,
et je crois qu'il est toujours, mais je n'en suis pas absolument sûr, il n'y est plus, puisqu'il a rejoint
Mediapart.
Il est plus
aux Arocs, à Mediapart.
Ouais,
il est à Mediapart, et effectivement, on a fait un... Alors, l'idée de l'entretien avec Sylvain Bourmeau,
producteur de l'émission La Suite dans les Idées,
sur France Culture. Et qui est souvent, qui endosse souvent le reproche d'élitisme, précisément, c'était de prendre le thème des cultures populaires, je dirais, à rebrousse-poil, à l'envers, et d'essayer, effectivement, de déconstruire la catégorie du populaire à travers, effectivement, les applications qui pouvait en être faite. Hein.
C'est-à-dire que dans l'évolution des Inrocks, il y a quand même quelque... Effectivement, on ne pense pas aux Inrocks spontanément quand on parle de culture populaire, mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est comment est-ce qu'un journal qui est avant tout culturel, qui parle de musique, puis de cinéma, s'ouvre peu à peu à diverses pratiques culturelles, organise son passage aux politiques et passe aux politiques. Mm-hmm. Et Sylvain Bourmeau et Jade Lingard, dans cet entretien, reviennent sur quelques moments clés, comme l'appel à voter Y en 1980... la lutte aussi, bien sûr l'appel à réagir à la guerre contre l'intelligence et la lutte des sans-papiers qui sont quelques moments dans lesquels le journal bascule.
Autre entretien important dans le cadre de ce dossier donc sur les cultures populaires, c'est l'entretien donc avec Mohamed Boroubka, dit Amé, on le connaît mieux sous le nom de Amé du groupe La Rumeur.
Oui.
Et c'est vous qui l'avez réalisé, c'est Pierre Thévagnan et
Nicolas a transcrit cet entretien. Bon, l'idée de toute façon de l'entretien, c'est dans la conception du dossier, l'idée c'était quand même de nourrir, d'avoir des papiers qui soient des monographies et d'avoir aussi un certain nombre d'entretiens un petit peu vivants, qui soient des témoignages d'acteurs des cultures populaires. Donc Amé, à un moment donné, évidemment, on a eu la possibilité de faire un entretien avec lui, et sachant que c'est un artiste engagé qui est allé assez loin dans son engagement et que donc nous maître, on voulait évidemment...
Le maître mot, dit-il, c'est réappropriation.
Tout à fait, mais de l'espace public, dit-il. Réappropriation et réappropriation de l'espace public.
C'est ça,
et ça, c'est au centre des enjeux des cultures populaires.
Il y a aussi un peu ça, parce qu'il évoque ses années à l'école, son rapport à l'école, qui était, il a un parcours de très bon élève, donc à l'aise, en tout cas quand il était jeune, dans la culture générale telle qu'elle est proposée par l'école. Et puis, rétrospectivement, on prend peu à peu conscience qu'en fait... dans son parcours scolaire, il a été victime de quelques vexations ou d'humiliations et commence à se réapproprier la culture de ses parents et la culture qu'on peut appeler de manière un peu dévalorisante contre-culture du hip-hop qui débarque notamment de la côte est des États-Unis et comment ensuite il va revendiquer cette culture comme étant une culture aussi noble que la culture dont il a...
Il dit quelque chose d'intéressant aussi dans cet entretien et d'assez frappant. Il fait partie, dit-il, avec ses frères et ses sœurs de la première génération depuis au moins 3 siècles qui a eu accès à l'instruction, à l'écriture, à la lecture. C'est violent.
Oui, non mais c'est vrai. Enfin, je pense. Enfin, ce qu'il explique, c'est que de toute façon, c'est pas gagné. Il le dit très bien. Il dit bon, quand on
ça ne va pas de soi.
Il dit le destin est tout tracé quand on vient de milieu populaire. Enfin, il le dit. Oui, c'est l'immigration. C'est ce qu'il dit. Il dit ça va pas de soi et en même temps, il dit ni populiste ni misérabiliste. C'est-à-dire qu'il prend farouchement le parti de la culture en disant mais il n'y a pas de raison d'être de cette scission, indépendamment de la transmission qui s'effectue. À l'école et je dirais d'une certaine manière, la ségrégation qui se fabrique aussi à l'école, en même temps, il n'y a pas de raison de faire une séparation entre la culture dite légitime et puis des cultures qui seraient considérées comme étant minoritaires.
On n'a malheureusement pas le temps d'entrer dans le détail, mais c'est quand même un thème très, 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 très important. Et cette notion de culture populaire, quand même, aujourd'hui, alors vous citez notamment les théoriciens de l'école de Francfort qui ont beaucoup parlé de ça, de la culture de masse ou l'industrie culturelle. Il y a d'ailleurs un article tout à fait intéressant sur le cinéma aussi dans ce dossier coordonné sous votre responsabilité, Patricia Osgagnan, avec la participation de Nicolas Héringer, qui est ici avec nous, Jade Lingard, Anne-Sophie Perriot et Patrick Simon. Comme ça, nous aurons été complets. Mais le dossier s'ouvre justement un peu dans le prolongement de ce questionnement dont je vous parlais à l'instant. Parce que la culture populaire, ça a l'air plus évident au Moyen-Âge qu'aujourd'hui, par exemple. Parce que le hip-hop, est-ce que c'est vraiment une culture populaire? Il y a une part d'élitisme quand même aussi, finalement. Peut-être pas d'élitisme, mais
dans le hip-hop, je vois pas tellement où est l'élitisme. Dans le hip-hop, en ce qui me concerne, je demande à être convaincue. C'est simplement, c'est une culture qui est issue des quartiers et des banlieues, qui est née, qui aujourd'hui est sortie évidemment de la rue et qui a intégré les scènes nationales. Mais ça reste dans ses innovations, dans ses formes symboliques, une culture évidemment populaire.
Il faut dire que le peuple est lui-même une catégorie problématique aujourd'hui.
Tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est qu'une culture populaire, d'une certaine manière? Le débat, finalement, qui oppose culture de divertissement à culture savante, c'est pas un débat récent. Par contre, ce qui est nouveau, en tous les cas d'actualité, c'est le regain d'engouement, l'intérêt renouvelé pour des cultures de masse, évidemment, qui sont démultipliées par l'intervention d'Internet, la télévision, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est intéressé au blog et à la télé-réalité. Mais en même temps, je veux dire, il y a aussi un regain d'intérêt pour le polar. Le polar, c'est réellement, aujourd'hui, c'est, c'est la culture littéraire du 21e siècle. Pour la bande dessinée, non, du hip-hop. Le hip-hop, c'est l'histoire dont on dit quand on s'occupe du hip-hop qu'elle n'est pas récente, mais elle est quand même relativement récente. Et aujourd'hui, elle intéresse quand même un certain nombre de chercheurs. Et l'idée, je dirais, des cultures populaires, c'est pas de s'opposer à l'art de masse ou à la culture d'élite. C'est d'être là où on ne l'attend pas. C'est-à-dire, c'est d'une certaine manière de subvertir en permanence les normes. Et donc, cette question, elle s'est posée de tout temps. C'est ce que dit Richard Schusterman quand il remonte à l'Antiquité en disant, mais même Hannah Arendt était très opposée, finalement, aux cultures populaires, parce que, pour elle, c'était de la culture de masse, et donc il y avait un délitement, effectivement, des valeurs, quelles qu'elles soient, d'ailleurs, y compris des valeurs populaires.
Patricia Osgagnan, vous ouvrez ce dossier avec un article dû à Richard Schusterman. Oui. Et notamment, c'est un, un critique, un penseur qui n'est pas très connu en France. On va peut-être bientôt le découvrir, notamment dans cette émission. Mais son dernier ouvrage paru aux éditions de l'Éclat, Conscience du corps pour une somme à l'esthétique, c'est le tenant de ce qu'on peut appeler l'esthétique pragmatique.
Alors, oui. D'abord, Richard Schusterman est quand même très connu en France, mais il est vraisemblablement dans des milieux qui sont des milieux, pour le coup, évidemment, assez réservés, mais, assez restreints.
Oui, il n'est pas très traduit.
Voilà. Si, il est quand même pas mal traduit en France, mais il reste, bon, c'est de la philosophie, c'est pas du grand public, enfin, oui. Je veux dire, là. Par contre, il a beau ne pas être grand public, il s'est intéressé, je veux dire, très très tôt, aux arts populaires, puisqu'il dit que c'est un des enjeux fondamentaux des sociétés démocratiques modernes. Donc pour lui, Richard Schusterman, enfin moi je suis ses travaux pratiquement depuis le début, sachant qu'il est héritier de la théorie critique et de l'école de Francfort de la même manière qu'un certain nombre. J'en suis aussi, hein, je suis une héritière de la théorie critique. Et l'idée de Richard Schusterman, c'est tout en plaçant au centre la question du corps, de l'expérience, voire de l'individu, malgré tout, de soumettre les arts populaires, alors contemporains ou pas, enfin peu importe, aux exigences de la critique esthétique, c'est-à-dire les sortir finalement de la relégation soit aux simples logiques de marché, soit au ghetto culturel. C'est de les sortir des ghettos culturels et de leur redonner une légitimité par l'intermédiaire de l'évaluation. Voilà. Je crois que c'est ça l'idée de fondamentale.
Divertissement et art populaire. Alors, dans ce texte, Richard Schusterman s'intéresse davantage à ce qu'il appelle la généalogie du concept, c'est-à-dire et où il montre notamment que ce débat entre culture populaire et culture savante, il existe depuis l'Antiquité.
Absolument. Non, mais bon, de toute façon, il nous démontre que, du temps des Grecs, je veux dire, ce débat a été, agité aussi l'opinion. Et que, d'une certaine manière, il y avait beaucoup plus de ressources et d'intelligence dans les cultures populaires que ça ne se disait comme tel, et qu'on était déjà dans des contenus politiques. Enfin, il faut penser au fou du roi. Enfin, moi, je dis toujours ça, c'est une formule, mais aujourd'hui, dans les clowns, dans la thématique des clowns, on retrouve effectivement les questions de la mise en scène, de l'autoreprésentation et de la réflexivité, effectivement, de la scène politique. Mmh. Et je dirais que ça, c'est au centre de l'actualité des cultures populaires aujourd'hui.
Alors, de Richard Schusterman, puisque vous avez également dans cette revue une rubrique de recension, de critique d'ouvrage, donc vous faites la recension justement de cet ouvrage que je citais à l'instant, Conscience du corps pour une soma esthétique. C'est un article dû à Barbara Formis. Vous avez également, Patricia Osgagnan, une actualité littéraire, puisque vous publiez le 16 mars aux éditions Le Pythagore, Meurtre en Champagne, une enquête de l'inspecteur Vouzel. C'est un polar. Merci à tous deux. Nous parlions avec vous de la revue Mouvement des idées des luttes, le numéro 57 qui vient de paraître, donc publié aux éditions La Découverte, Culture populaire, populisme et émancipation sociale. André Chabin, c'est à vous.
Merci Jacques.